Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie, qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des pays de Savoie, et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder cette identité savoyarde. Aujourd'hui, je veux vous faire découvrir un skieur alpin de légende. C'est Émile Allais. Fils de boulanger, Émile Allais voit le jour en 1912 à Megève, paisible bourgade de Haute-Savoie, qui va sortir de l'anonymat au lendemain de la Première Guerre mondiale. Lassé en effet de devoir côtoyer les Allemands dans les stations, très prisées de Saint-Moritz, la baronne Noémie de Rothschild recherche un endroit en France pour s'adonner à la pratique du ski. Et, sur les conseils de son moniteur, choisit Megève, où elle fait construire en 1921, sur le mont d'Arbois, face au Mont-Blanc, un hôtel de luxe. D'autres établissements sont ouverts et bientôt une clientèle d'aristocrates, de gens issus du monde des affaires, de la finance, fréquente le village pendant l'hiver. Le jeune Émile, qui accompagne parfois son oncle guide skieur pour les touristes fortunés, se sent des fourmis dans les jambes. Lorsqu'il observe un peu raide sur les planches, s'aidant d'un grand bâton qu'il place entre les jambes pour freiner. Très athlétique pour son âge, le garçon qui pratique le hockey sur glace et le vélo en été aime à se mesurer avec ses copains sur les pentes enneigées 6 mois par an, avec des skis bricolés, et le jour où son oncle lui enseigne les rudiments de la glisse, Émile est loin d'imaginer que son destin va basculer. Tout en aidant ses parents qui ont transformé la boulangerie en hôtel, le jeune homme fait du ski dès qu'il en a l'occasion et son aisance sur les planches attire rapidement l'attention de l'un des moniteurs autrichiens de la baronne qui lui prodigue ses conseils et l'encourage en 1932 à participer au Grand Prix du bon skieur dans lequel le Savoyard termine juste derrière lui à la 2e place. Arrive déjà le temps du service militaire qu'Émile effectue l'année suivante dans les chasseurs alpins. Remarqué pour son style, sa vitesse, par les responsables de la Fédération française de ski créée en 1924 à l'initiative du Club alpin français, dans la foulée des premiers Jeux olympiques d'hiver de Chamonix, Émile Allais participe à sa première compétition internationale au championnat du monde de Saint-Moritz en 1934, en terminant loin dans les classements. Mais le Savoyard aux yeux bleus lavande est particulièrement motivé, tant et si bien que l'année suivante, il décroche 2 titres de vice-champion du monde en descente et dans le combiné à Muren en Suisse. Puis remporte en février 1936 une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne où parade Hitler. Émile Allais progresse, mais il aspire à monter sur la plus haute marche du podium. Alors, il s'entraîne sans relâche, utilise des skis plus souples, remplace son pantalon de golf trop large par un fuseau confectionné sur mesure par Armand Allard, tailleur à Megève dénommé le fuseau, et adopte, grâce à une meilleure fixation du talon de la chaussure de ski, une nouvelle technique qu'il a mise au point et lui permet d'effectuer des virages ski parallèles et de rayons plus courts. Ses efforts sont enfin récompensés début 1937 au championnat du monde de Chamonix où il ralph les 3 médailles d'or descente, slalom et combiné. Fort de cette réussite, il crée la technique du ski alpin et la consigne dans un memento, le premier du genre. Dans la foulée, à la demande de Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État au sport et à l'organisation des loisirs dans le gouvernement du Front populaire, l'École nationale du ski français, ENSF, est ouverte. La formation des moniteurs, imaginée par Émile Allais, est donc lancée et son inspirateur porte la médaille numéro 1. Au championnat du monde d'Engelberg en Suisse, en 1938, il améliore son palmarès en remportant 1 médaille d'or et 2 d'argent. Puis, tandis que les bruits de bottes se font de plus en plus menaçants, le champion se fracture la cheville au cours d'une séance d'entraînement et décide d'arrêter la compétition. Mobilisé comme chasseur alpin dans le bataillon de haute montagne de Chamonix, après l'armistice de juin 1940, il structure les écoles de ski et devient directeur technique national de l'ENSF, basé à l'Alpe d'Huez. Il participe ensuite à la libération. Ennemi de la routine, le premier champion du monde et médaillé olympique français en ski alpin quitte la vieille Europe pour traverser l'Atlantique. Commence alors pour lui une nouvelle carrière. Après avoir entraîné les équipes nationales de ski chiliennes, canadiennes et américaines, il participe à la création de plusieurs grands domaines skiables. Telluride au Colorado, Squaw Valley en Californie, La Parva et Portillo au Chili, et enfin Las Lenas en Argentine. De retour en Savoie à la fin des années 50, il rapporte la chenillette d'amage qu'il a conçue à Squaw Valley. Grâce à cet engin révolutionnaire, les pistes vierges n'existeront bientôt plus et une profession voit le jour. Pisteur-secouriste, métier dont il est le créateur et porte, comme pour le Haie-Moniteur, la médaille numéro 1. Le ski devenant de plus en plus à la mode, Émile Allais est réclamé un peu partout et conseille les investisseurs qui aménagent les stations de Courchevel, La Plagne, Vars ou Flaine. C'est le début de l'or blanc. Premier sportif à avoir été sponsorisé par l'entreprise française Rossignol en 1936, il est devenu champion du monde avec son modèle Olympe 41. Il vient en aide à cette entreprise qui traverse des difficultés financières, usant de ses compétences pour améliorer la qualité des skis en bois et surtout passer aux skis métalliques. Les Allais 60, avec lesquels Jean Vuarnet sera sacré champion olympique de descente à Squaw Valley. Toujours à la pointe de l'innovation, Émile Allais découvre, un beau jour au Canada, la technique des canons à neige. Aussitôt, il l'importe en France. Ayant toujours un temps d'avance, c'est lui qui favorise l'essor des premières remontées mécaniques, puis pousse au développement des liaisons entre plusieurs domaines skiables afin de séduire les amateurs de grands espaces. Il n'oublie pas non plus les piétons. Tous ses clients venus passer quelques jours à la neige, au prix quelquefois de gros sacrifices financiers, doivent en effet trouver leur contentement. En 1966, à l'invitation du Chili, le Savoyard est très heureux d'ouvrir les championnats du monde de Portillo où triomphent Marielle Guatchel, Annie Famos, Jean-Claude Killy et Guy Perilla. Père de famille comblé, ses deux filles pratiquant l'une le ski alpin, l'autre le ski acrobatique, sont sélectionnées en équipe de France et l'une d'elles ayant même participé aux Jeux Olympiques. Il conserve, malgré le poids des années, une forme olympique, au sens plein du terme. Et se fondant humblement parmi les foules de skieurs, il descend toujours, avec une souplesse étonnante, les pentes enneigées de ces Alpes qu'il aime tant. Pour se motiver davantage et répondre à de multiples sollicitations, ce père du ski moderne, comme l'a qualifié Jean-Claude Killy, participe à des compétitions amicales alors même qu'il approche de ses 100 ans, toujours vêtu d'une combinaison bleue claire assortie de la couleur de ses yeux. Ceci se ferme le 17 octobre 2012 dans une chambre de l'hôpital de Sallanches. Mais une légende, dit-on, ne meurt jamais. Cette chronique est tirée du livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Hoffmann, ces savoyards qui ont fait l'histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et surtout, à une prochaine fois.